Alors, c'est très variable d'une région à une autre parce que toutes les régions ne sont pas exposées de la même manière au phénomène de réchauffement climatique. Mais je dirais, tout le monde a facilement pris un degré d'alcool. C'est-à-dire, vous passez de 12 à 13, ou vous passez de 13 à 14, voire vous passez de 14 à 15 pour les vignobles les plus ensoleillés et les plus chaleureux.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Vous aimez peut-être boire du vin, et si oui, ça nous fait un énorme point commun. Et si je vous disais que les vins de demain ne seront plus exactement comme ceux d'aujourd'hui, ou même que ceux d'aujourd'hui sont déjà différents de ceux d'hier. Par exemple, vous l'aurez sûrement remarqué, il est de plus en plus difficile de trouver des quilles à moins de 13 degrés. Et si vous vous intéressez un peu aux cépages et aux spécificités des régions viticoles, vous aurez peut-être observé que les grilles de lecture d'avant sont déjà en train de changer. Depuis une dizaine d'années, un nouveau facteur s'est confortablement installé dans les vignes, comme partout ailleurs sur la planète, le changement climatique. Et qui dit hausse des températures, dit aussi augmentation du sucre dans les raisins, et donc augmentation du degré d'alcool dans le vin. Et cette nouvelle donnée environnementale, elle contribue énormément à changer et notre manière de faire du vin, et nos repères pour le déguster. Car oui, une cuvée, c'est avant tout un paysage, un lieu, ce qu'on appelle plus précisément un terroir. Et les agronomes estiment qu'un terroir, ça dépend de trois facteurs, le climat, le sol et la plante. Et dans cet équilibre, le climat pèserait 50% de ce qui fait l'identité d'un terroir. C'est finalement assez logique. Quand le climat change, c'est aussi le sol qui change, par exemple en devenant plus sec, et donc les vignes qui se comportent différemment. On dit aussi que le réchauffement climatique va avoir pour conséquence de bousculer la carte des vignobles. À l'échelle mondiale, certains territoires déjà chauds vont certes devoir s'adapter à la sécheresse, mais d'autres vont aussi pouvoir profiter d'un climat plus clément. Dans un article de la Revue du vin de France, on s'interroge même, les pays scandinaves vont-ils finir par devenir producteurs de vin ? Finalement, la vraie question est donc la suivante. Quelles vont être les conséquences du réchauffement climatique sur les vins du futur ? Qui va sortir gagnant ou perdant face à cette nouvelle réalité écologique ? En deuxième partie d'épisode, vous entendrez Sandrine Audegon, prof à l'école du vin, où j'ai suivi une formation et passé mon certificat 1 en dégustation. Ce que j'aime avec Sandrine Audegon, c'est qu'en plus d'être passionnée et passionnante, elle arrive toujours à expliquer les choses avec beaucoup de générosité, si bien qu'avec elle, le vin ne semble jamais réservé aux seuls connaisseurs. Sandrine, vous avez déjà pu l'entendre dans l'épisode 20 sur 20, formation accélérée pour bien s'aviner, qui livrait des clés de lecture pour bien comprendre les vins. C'est l'épisode 54, si vous voulez aller l'écouter. Vous l'entendrez tout à l'heure, Sandrine Audegon n'est pas si alarmiste quant à l'état du vin à l'heure du réchauffement climatique. Mais avant ça, nous avons donné la parole à deux personnes très bien placées pour observer les effets que la hausse des températures a déjà sur un vignoble. Taran Limousin et Jonathan Buisson. Le premier est ingénieur à l'Institut français de la vigne et du vin et travaille à la SICAREX, centre de recherche vitivinicole dans le Beaujolais. Le second est vigneron dans le Beaujolais également et son domaine s'appelle les Roches Bleues. Avec eux, on met donc le cap sur le Beaujolais, région viticole dans laquelle, avec le réchauffement climatique, les vendanges se font de plus en plus tôt. Le gamay que l'on produit est habituellement apprécié pour sa buvabilité, un néologisme construit à partir du terme « drinkability » qui désigne les vins gouléants qui se boivent tout seuls. Dernièrement, la hausse des températures a fourni, certes, une belle maturité aux raisins, mais avec un risque parfois d'aller vers une excessivité qui peut changer le goût du vin en l'alourdissant. J'ai demandé à Taran Limousin et à Jonathan Buisson de me parler des changements qu'ils voient déjà au quotidien et des solutions mises en place pour continuer à faire de bonnes cuvées. Et vous le verrez, c'était intéressant de leur parler tous les deux en même temps, car au quotidien, grâce aux recherches de la SICAREX, les ingénieurs et les vignerons et vigneronnes travaillent main dans la main afin que l'expertise des uns profite aux autres qui travaillent la terre. J'ai commencé par demander à l'ingénieur Taran Limousin d'expliquer en quoi la hausse des températures se voit déjà dans les vignobles.
Le le changement climatique, en fait, d'un point de vue de la vigne, on l'observe de différentes façons. D'une part, c'est l'avancée des dates de maturité. Grossièrement, depuis les années 50, on a gagné en maturité en vendange, en gros, 2 semaines plus tôt, 10 jours à 2 semaines plus tôt. On obtient des raisins qui sont de plus en plus riches en sucre et avec de moins en moins d'acidité. Et le deuxième effet du réchauffement climatique, ça peut être aussi l'effet d'une baisse de la pluviométrie, donc avec des sécheresses qui peuvent impacter notamment sur le rendement de la vigne, c'est-à-dire la quantité de raisins qu'on peut ramasser sur les vignes.
Et je crois que le millésime qu'on vient de vivre est un beau témoin.
Ouais.
Moi, je suis vigneron sur la côte sud du Mont-Brouilly, donc exposé sud, et c'est un secteur qui cette année a particulièrement manqué d'eau, on va dire, et donc du coup là les vendanges très précoces. Voilà, c'est vrai que c'est une illustration de ce que vient de nous dire Taran.
Depuis la date de début des vendanges, elle s'avance chaque année de combien de temps à peu près?
Depuis 2015, on a des années qui sont quand même vraiment précoces, avec des vagues de chaleur et un manque d'eau, comme disait Taran juste avant. Et cette année, moi, pour ma part, j'ai attaqué le 18 août, donc c'est quand même assez exceptionnel.
Cette hausse des températures, elle s'accompagne, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, d'une augmentation du taux de sucre. Est-ce que ça veut dire aussi que les vins ont de quoi avoir un taux d'alcool plus fort?
Alors, clairement, oui. Clairement, oui. C'est assez basique. Moins on a d'eau, plus le raisin est concentré et plus la concentration en sucre est forte et donc le potentiel alcool élevé, effectivement. Oui.
Après, donc, c'est le travail du vigneron d'essayer de jouer avec d'autres facteurs pour retrouver un équilibre dans le vin.
Ben, complètement, ouais, c'est là tout notre challenge, je pense, sur qui s'offre à nous sur les années à venir, parce que, alors après, c'est très personnel, mais je pense qu'on doit aussi prendre ça comme une opportunité pour changer notre manière de conduire la vigne. Et c'est ça tombe à un moment, voilà, où on se réinterroge pour aller entre avec des gros guillemets produire mieux, etc. Et donc du coup, ça fait partie des facteurs. Donc dès la culture de la vigne, il faut qu'on réapprenne à garder la fraîcheur dans la vigne, à garder l'eau qui arrive à des moments, et ben faire en sorte que les sols captent cette eau et que cette eau ne parte pas directement. Donc ça veut dire repenser notre mode de conduite. Déjà à la base c'est ça, et puis après effectivement au chai c'est comment on arrive à pallier le fait qu'on ait des degrés hauts, soit par des assemblages, soit par après. Il faut voir aussi que il y a quelque chose de, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a aussi quelque chose de positif sur nos vins, c'est-à-dire que cette année on a des petits rendements puisque manque d'eau, peu de jus. Par contre, on a des premiers jus qui sont assez exceptionnels en termes qualitatifs. On peut dire qu'on a un climat chez nous qui change. On a plutôt des climats qu'on avait plus au sud. Mais en termes de qualité de vin directement, c'est plutôt positif aujourd'hui.
Donc on peut aussi parler de ces effets favorables sur les vignobles septentrionaux qui sont, est-ce que c'est lié au fait que certaines maladies sont dues à l'humidité et que du coup puisqu'on va vers quelque chose de plus sec, on évite aussi ces maladies?
Oui, effectivement, il y a déjà la pourriture du raisin, tout simplement, qui est due à l'humidité. Donc, effectivement, ça permet de réduire certains traitements qui étaient faits à une époque où il y avait plus de pourriture du raisin, quoi. Mais aussi toutes les autres maladies qui peuvent attaquer la vigne, effectivement, quand il fait plus sec, y a un peu moins de maladies.
Alors, ce qu'il y a d'hyper intéressant là dans le duo que vous formez aujourd'hui dans cette interview, c'est que donc Taran, toi, tu es ingénieur à l'Institut français de la vigne et du vin et aussi à Sicarex, et Jonathan, vigneron donc au domaine des Roches Bleues. À quel point aujourd'hui vos deux profils coopèrent peut-être pour partager en fait ses connaissances et mieux savoir comment se comporter face aux vignes du Beaujolais?
Moi, je suis un jeune vigneron, jeune en termes d'installation. Ça fait pas très longtemps que je me suis installé. Je suis trentenaire. Je suis revenu. C'est une seconde vie professionnelle pour moi. Je suis revenu dans ma région natale que j'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup, on est de plus en plus de vignerons à vraiment relever les manches pour prendre à bras le corps cette question du changement de la conduite de nos vignes. Et notamment, on travaille de plus en plus une volonté de développement de notions agroécologiques dans nos vignes, c'est-à-dire ramener de la biodiversité, de l'herbe, des arbres, des haies pour justement, entre autres, garder la fraîcheur et de la fertilité dans nos sols, ce qui est à mon sens un élément moteur pour rendre moins fort les impacts climatiques, voilà. Et sur ces questions-là, pour le coup, on travaille de manière très étroite avec les différentes instances, Sicarex, Chambre d'agriculture et autres, parce que finalement c'est des choses qui paraissent simples, l'agroécologie. Quand on parle d'agroécologie, ça veut dire notamment voilà travailler sur la fertilité du sol, sur remettre des arbres, des haies dans nos vignes. Ça peut paraître simple, mais c'était pas vraiment les orientations des dernières décennies. Et du coup, quand on s'intéresse en tant que vigneron à ces sujets-là, on n'a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de matière sous la main. Donc, on a vraiment besoin d'appui technique de la part de différentes instances.
Est-ce que, du coup, tu peux revenir sur ce que tu as commencé à aborder tout à l'heure? Tu disais donc face à l'augmentation du taux de sucre, tu travailles soit en amont, soit en aval pour rectifier ça. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ces deux moments?
Je crois que vraiment notre plus gros challenge, il est en amont à la vigne. Ce que je disais, c'est que on a des vignes qui peuvent souffrir de sécheresse, enfin de manque d'eau, et puis de grillure aussi ces dernières années. Donc de grillure, c'est-à-dire que vraiment le soleil qui attaque directement le feuillage de la vigne et les raisins, et on assiste vraiment à des phénomènes de grillure. Et donc la question est comment on réinterprète notre façon de cultiver la vigne en s'inspirant de peut-être aussi de ce qui se fait plus au sud, puisque dans des pays plus sudistes, et puis même en France plus au sud, puisque on n'est pas seul face à ces questions-là. Mais en tout cas, l'idée, c'est voilà comment on ramène plus de fraîcheur dans nos vignes. Je crois que le mot est là. Aussi bien en gardant l'eau, peut-être en bioclimatisant différemment nos vignes. Je pense qu'on a vraiment tout un terrain à défricher sur ces questions-là pour éviter que nos vignes souffrent trop de ces vagues de chaleur qui peuvent être intense, tous ces éléments-là, donc parfois le manque d'eau, comment on va faire en sorte que notre vigne aussi aille puiser plus loin pour capter des ressources en eau, qu'elle soit plus forte pour pouvoir attendre, laisser passer ces moments où il fait très chaud, se refermer un petit peu, puis récupérer derrière. Voilà, toutes ces questions-là qui sont, à mon avis, essentielles pour que demain, on contrôle effectivement nos degrés au final sur le vin.
Et alors comment on fait exactement pour faire en sorte que les vignes puissent puiser plus d'eau dans le sol?
Alors bah déjà on essaye de garder l'eau dans le sol en travaillant sur notamment de l'enherbement. Nous on travaille beaucoup sur on accepte de baisser nos densités de plantation, c'est-à-dire d'avoir moins de vignes sur une surface donnée, d'avoir moins de pieds de vigne, mais par contre d'avoir d'autres types de végétation, de l'herbe, soit des semis qu'on va apporter, soit de l'enherbement spontané qui se plaît sur nos terrains, de ramener des, j'ai parlé tout à l'heure des haies qui sont un élément essentiel pour capter l'eau sur des terrains, éviter que l'eau, notamment sur nos coteaux, descende et puis file sur les terrains.
Nous, on travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est les différents cépages et aussi les différents porte-greffes. Parce qu'il faut savoir que la vigne, toutes les vignes en France, enfin presque toutes en tout cas, elles sont greffées sur des différents porte-greffes. Et chaque porte-greffe a une différente tolérance au stress hydrique. Et donc, effectivement, là, on commence à étudier l'intérêt de certains porte-greffes qui sont plutôt utilisés dans le sud de la France. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est des études qui sont très longues, parce qu'il faut le temps de produire les plants, de les planter, d'avoir les premières récoltes. Donc, c'est des choses qu'on commence à peine à faire pour voir quels seront les porte-greffes à l'avenir qui seront adaptés pour les nouvelles conditions de sécheresse.
Est-ce qu'il y a aussi des travaux sur la variété idéale de Gamay, par exemple ?
Ça fait depuis très longtemps que, en fait, la Sycarex essaie de trouver différents types de Gamay en fonction à la fois de l'adaptation en fonction du climat, mais aussi en fonction du profil aromatique des vins. C'est Jean-Michel Desperrier à la Sycarex qui a fait un conservatoire de Gamay. Donc, en fait, un conservatoire, c'est une parcelle sur laquelle on met des plants qui sont issus de plein d'autres parcelles en France, mais aussi à l'étranger. Donc, il y a eu un gros travail de prospection dans tous les vignobles dans lesquels il y a du Gamay, en France, en Suisse, en Italie. Toutes les souches qui ont été identifiées, on les a mises dans une même parcelle et maintenant on les observe, ces souches, de façon à voir si y en a qui se comportent un peu différemment. Faut vraiment pouvoir, à l'intérieur d'un même cépage, voir quelles sont les petites variations génétiques qui vont faire que telle souche va être plus adaptée à l'avenir. Donc effectivement, alors c'est plutôt des gamets qui viendraient d'Auvergne. Maintenant, on essaye de trouver aussi des gamets avec un peu plus d'acidité, parce que l'autre inconvénient du changement climatique, c'est que avec l'augmentation des températures et avec l'avancement de la date de récolte, en fait, la maturité, elle se fait dans des conditions de plus en plus chaudes. Et du coup, la vigne, quand il fait très chaud, elle va brûler son acidité. En fait, l'acidité va baisser avec la maturité, c'est normal. Hein. Plus un fruit est mûr et plus il est sucré et moins il est acide. Et ben, le problème, c'est que jusqu'à présent, c'était plutôt positif. On avait des vins qui étaient de moins en moins acides. Mais à l'avenir, ça peut poser des soucis en termes d'équilibre des vins déjà. On peut avoir des vins qui sont très alcoolisés et peu acides en termes de conservation, effectivement. Plus il y a d'acidité, plus le vin se conserve longtemps. Du coup, on essaye plutôt de sélectionner effectivement des profils de gamay qui, à une certaine époque, on n'en voulait pas, quoi. On voulait pas de gamay qui donnait pas de sucre, qui avait beaucoup d'acidité. Maintenant, c'est plus vers ça qu'on s'oriente, quoi.
J'imagine que réfléchir à cette variété idéale, ça nécessite une attention constante portée sur le réchauffement climatique et comment les températures évoluent exactement dans les vignobles.
Exactement, ouais. Alors, c'est très compliqué en fait de travailler sur le changement climatique, parce que on sait ce qu'il en est aujourd'hui, mais on sait pas trop comment ça va évoluer, quoi. On a une petite idée de comment ça va évoluer d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, mais après c'est extrêmement dépendant des émissions de CO2. Donc on table sur une augmentation de température de 1 à 5 degrés, quoi. Donc, c'est l'impact sur le vignoble, il est pas du tout le même. Sachant que quand on plante une vigne, on la plante pas que pour 10 ans, quoi. On essaie de voir au moins 30 ans d'avoir au moins une vision sur 30 ans, quoi. Donc, effectivement, que ce soit la sélection du gamay, que ce soit l'évolution des modes de conduite, que ce soit la diminution du traitement dans les vignes, tout ça, on essaie de garder en tête le changement climatique. Ça implique aussi que toutes les solutions qu'on propose, il faut aussi que ça amplifie pas le changement climatique, quoi. Il faut pas que ça implique de passer 20 fois plus souvent en tracteur dans les vignes.
a entendu avec Tarant Limousin et Jonathan Buisson, le réchauffement climatique est aussi l'occasion pour les artisans du vin de repenser leur approche de la terre. C'est un état d'esprit humble qui s'ancre dans le sol, qu'on ressent d'ailleurs depuis plusieurs années avec la démocratisation du vin naturel, une approche très tournée vers une écoute attentive des vignes qui changent au rythme des évolutions climatiques. Cela revient à abandonner l'idée d'une feuille de route constante et à valoriser un travail adapté à ce qu'il se passe en direct dans les vignobles, ce qui ouvre vers un grand champ d'expérimentation et de défis pour les vignerons et vigneronnes. Mais ce qui ressemble à du pain sur la planche pour les uns est aussi générateur d'un nouveau terrain de jeu pour les autres. C'est ce que Sandrine Audegon, spécialisée en dégustation de vin, nous raconte. Pour cette prof à l'école du vin, jamais déguster du pinard n'a été aussi amusant, joyeux et troublant. Chez les spécialistes de l'œnologie, on entend souvent que la hausse des températures va finalement faire apparaître plus de nouveaux vignobles qu'il ne va en détruire. On lit même, non sans sarcasme, que jamais le vin n'a été aussi bon et la situation aussi grave. Selon Sandrine Audegon, les vins produits ces dernières années rebattent les cartes en matière de critères de dégustation. Certains vins rouges autrefois vifs gagnent en fruits, d'autres en souplesse. Bref, c'est un nouveau chapitre de l'œnologie qui s'ouvre en ce moment. J'ai commencé par demander à Sandrine si en goûtant les vins, elle voyait déjà les effets du changement climatique dans le verre.
Oui, oui, j'en ai vu plusieurs exemples. Ça se voit en fait à deux choses différentes. Alors la première, la plus flagrante et qui se mesure facilement, c'est l'augmentation du taux d'alcool dans les vins. C'est lié d'une part au réchauffement. Il y a aussi le fait qu'en viticulture, finalement, on a la chance de devenir meilleur au fur et à mesure du temps. Donc ça joue aussi, bien sûr, sur la qualité du raisin qu'on récolte, sur la teneur en sucre des baies. Mais très clairement, on a en moyenne des vins aujourd'hui qui ont un peu plus d'alcool qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Donc c'est la première chose qui est mesurable. Le deuxième aspect, c'est que les vins sont de plus en plus fruités. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de concentration d'arômes de fruits. Alors, chaque cépage va avoir son expression, évidemment, parce que vous avez des cépages comme la Syrah ou le Cabernet Sauvignon qui vont avoir des arômes de fruits noirs très marqués, avec pour la Syrah une touche épicée, par exemple. Et puis, vous allez avoir d'autres cépages. Par exemple, je prends un blanc qui est le Sauvignon. Le Sauvignon qui va être plus parfumé, très citronné, de plus en plus floral. Donc, Il y a un rôle du fruit, du goût du fruit dans le vin qui devient de plus en plus marqué, ce qui correspond bien au goût moderne en fait. Donc c'est assez bien parce qu'on recherche de plus en plus des vins qui sont buvables jeunes, donc c'est un atout considérable. Et puis je vous dirais aussi qu'il y a une chose que je vois, c'est que la qualité des vignobles, enfin des vins qui viennent des vignobles septentrionaux, c'est-à-dire en gros, vous prenez la Loire, vous coupez la France à cette hauteur-là, les vins qui viennent du nord de cette limite, la Loire comprise, finalement sont de plus en plus mûrs. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, on constatait des vins un petit peu austères, des vins un petit peu durs, et puis on voit aujourd'hui que ça évolue, que les vins sont de plus en plus tendres, fruités, donc il y a une vraie évolution de goût. Et il me semble que ça va vers une certaine diversification aussi. On voit vraiment les styles de vin s'affiner et en même temps se diversifier. Donc ça fait, je pense, réémerger aussi l'intérêt pour certains cépages qui étaient peut-être un petit peu oubliés.
Alors vous avez parlé de degrés en plus. C'est combien de degrés en général que les vins ont gagné ces 10 dernières années?
Alors, c'est très variable d'une région à une autre parce que toutes les régions ne sont pas exposées de la même manière au phénomène de réchauffement climatique. Mais je dirais, tout le monde a facilement pris un degré d'alcool. C'est-à-dire, vous passez de 12 à 13 ou vous passez de 13 à 14, voire vous passez de 14 à 15 pour les vignobles les plus ensoleillés et les plus chaleureux. Donc, c'est très variable. Mais globalement, on peut dire que tout le monde a monté d'un point en matière d'alcool.
Donc ça ne va pas nous aider pour l'ivresse en soirée.
Il va falloir boire de moins en moins, effectivement. Il va falloir faire une règle de 3 avec le nombre de centilitres qu'on verse dans son verre, effectivement, si on veut rester dans la plaque. Mais disons que, vous savez, il y a finalement... En France, on partait d'une situation où quand même, on avait la chance d'avoir des vignobles plutôt équilibrés. C'est-à-dire que même dans les vignobles très solaires, je pense au Languedoc, au sud de la vallée du Rhône, la Provence, bon, on partait pas, on n'était pas en Australie, on n'était pas en Californie, dans les parties continentales. Donc, ça reste quand même, dans l'ensemble, relativement raisonnable. Et puis après, effectivement, on a des moyens. On a des moyens de lutter contre ça, c'est de vendanger plus tôt, c'est de jouer sur les assemblages. Là où c'est possible, bien sûr, tout le monde le peut pas. On a quand même des solutions. Donc il y a la part du réchauffement climatique qui est une donnée avec laquelle il va falloir faire, avec laquelle nous faisons plus exactement, parce qu'il y a déjà des effets qui sont clairement mesurables aujourd'hui. Après, du point de vue du travail dans les chais, on n'est pas sans ressources aussi, hein. Donc je pense que là, le goût du vin, je dirais, personnellement, je suis pas inquiète parce que je pense qu'il va y avoir une évolution de style. Mais je pense que ça va rester jouable. Hein. On a des atouts, on a des cartes à jouer aujourd'hui, heureusement d'ailleurs.
Vous avez parlé donc de vins qui sont buvables plus jeunes, donc plus sur le fruit. Est-ce que finalement tout ça, c'est notre goût donc de l'époque pour ces vins-là? Selon vous, est-ce que c'est un concours de circonstances assez heureux que donc ces goûts aillent dans ce sens-là et que ça tombe bien donc les vins aussi? Ou est-ce que c'est aussi parce que le marché aussi nous a fait changer un peu de goût, la disponibilité de ces vins nous a un peu aiguillé vers ce nouveau goût?
Je pense que c'est un concours de circonstances heureux. Effectivement. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, on voit bien que le goût a évolué. Par exemple, il y a 20 ans, le rosé ne se buvait pas autant que de nos jours. C'est-à-dire que c'était vraiment une consommation très localisée dans le sud de la France, pendant la période estivale, et puis ça se limitait à peu près à ça. Aujourd'hui, c'est devenu un style de vin à part entière qui est apprécié en tant que tel, notamment par des consommateurs qui sont plus jeunes, hein, qui ont moins de 40 ans globalement. Et donc, on voit bien qu'il y a une évolution du goût. Donc, finalement, ça tombe plutôt bien. Ça tombe plutôt bien. Je pense aussi qu'il y a une recherche de fraîcheur, de naturalité, d'authenticité aussi, qui n'est pas contradictoire. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que cette évolution vers un goût plus fruité allait se faire au détriment des vins de terroir, etc. Mais en fait, c'est pas tout à fait la question. C'est-à-dire que, c'est le terroir, mais compris différemment. Et donc, je pense que c'est un goût qui a évolué. La façon dont on travaille aujourd'hui, finalement, s'y prête bien. Je pense qu'on va aller vers plus de diversité aussi. Puis il y a plein d'autres phénomènes qui se sont mis en marche aussi. Et non, je pense que c'est plutôt une bonne conjonction des choses. Alors, vous allez peut-être me dire que je suis une optimiste inoxydable, hein, c'est possible. Je suis rarement pessimiste, je dois dire. Mais là, je pense que c'est plutôt effectivement une tendance qui avait commencé. Et puis finalement, on adapte aussi le style des vins, le travail des vins à ça. Et c'est un atout, clairement, d'avoir du soleil, d'avoir des étés généreusement ensoleillés. Ça, il ne faut pas se leurrer. Ça aide aussi considérablement ce travail.
Donc finalement, le réchauffement climatique pourrait quand même profiter à beaucoup de vignobles, parce que parfois on lit un truc un peu plus dans le registre de la catastrophe, où on nous explique qu'il y a des vignobles qui vont disparaître, des régions qui vont vraiment souffrir de ce réchauffement climatique, mais il y en a aussi plein d'autres qui vont plutôt sortir gagnantes.
Oui, en fait c'est ça, moi je m'attends, je pense qu'il faut bien conserver aujourd'hui les cartes viticoles. Faut bien les garder de côté, et dans 10 ans on se reparle et vous allez voir, à mon avis, il y a des choses qui vont beaucoup bouger. Parce qu'en fait, je pense pas qu'il y ait de vignobles véritablement en danger de mort en France. Il y en a qui vont avoir beaucoup de mal, qui ont déjà du mal parce qu'ils enregistrent de plus en plus de vagues de chaleur, de périodes de sécheresse, et c'est vrai que c'est pas facile pour eux parce qu'il faut qu'ils soient très très actifs. Les vignerons doivent vraiment être très très attentifs, vraiment sur le qui-vive. Donc c'est pas confortable pour eux. Et en même temps, on voit apparaître des vignobles. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est apparaître ou réapparaître, c'est-à-dire des vignobles qui avaient été un petit peu laissés dans l'oubli et qui sont en train de remonter en fait et de reprendre de l'intérêt. Et donc, les cartes vont être battues. C'est-à-dire, à mon avis, effectivement, on va voir des vignobles se densifier, se reconstruire, alors qu'on les avait peut-être un petit peu laissés de côté ou on les avait pas regardés de très près. Donc oui, je pense qu'en fait, la carte va bouger. Donc, il faut pas se leurrer, ça va pas être facile pour tout le monde. Ça c'est clair. Ça, c'est absolument mesurable aujourd'hui. Mais très clairement, il y a aussi des choses qui vont réémerger. Donc en fait, comme c'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois dans l'histoire, bah, il y a des choses qui vont changer. Prenez le cas par exemple de la renaissance du vignoble d'Île-de-France. Ça me paraît intéressant. Il y a quelques jours, on me faisait goûter un vin rouge de Champagne qui est élaboré à partir du Meunier, qui est un cépage historique de la Champagne et d'une partie de la vallée de la Loire, notamment. C'était des vins, mais on aurait peut-être il y a 10 ans jamais imaginé de le vinifier en vin rouge. On l'aurait utilisé, bien sûr, comme c'est le cas aujourd'hui dans une large mesure pour faire des champagnes, bien sûr. Et en fait, ce vin-là, aujourd'hui, il est intéressant en tant que tel, en tant que vin rouge. Donc, moi, je pense qu'il y a une jolie page blanche qui est en train de se présenter à nous. Et je pense qu'il faut prendre la plume et puis écrire le prochain chapitre du vignoble français.
Oui. Donc, si je comprends bien, cette situation génère beaucoup d'adaptation, de travail, d'écoute aussi du vignoble et d'observation du climat, donc pour les vignerons et les vigneronnes. Pour nous, consommateurs, consommatrices, vous qui êtes aussi expertes dans la dégustation, en revanche, c'est assez excitant parce que ça veut dire beaucoup de nouveautés.
Ah, je pense que c'est intéressant pour le consommateur parce qu'effectivement, il va avoir de plus en plus de choix. Je pense aussi que alors, c'est pas directement, bien sûr, lié au réchauffement climatique, mais je pense qu'il va y avoir, du coup, une nouvelle génération de vignerons qui va s'installer. Et ça, c'est bien aussi, parce que ça va permettre aussi un contact de plus en plus proche, authentique. Alors, bien sûr, il y aura le rôle d'Internet, des réseaux sociaux. Enfin, je vous apprends rien. Mais oui, je pense que c'est une période qui va être très excitante. Puis, allez savoir, peut-être qu'aussi, ça va donner envie à des cavistes de s'ouvrir, des bars à vin, enfin, tous les professionnels qui sont aussi intermédiaires et dont le travail, c'est la sélection, la proposition de nouveaux vins. Donc, oui, je pense que la période à venir, si on joue bien notre carte, on va pas s'ennuyer. Ça, je le pense vraiment, oui.
Alors, en tout cas, en France, parce que si j'ai bien compris, tous les pays ne peuvent pas être aussi ravis par la situation. Je consultais une recherche menée par des chercheurs américains et français de l'Institut national de recherche en agriculture, l'INRAE Bordeaux, et sciences agro notamment. Et dans cette étude, on explique que les pays méditerranéens seront assez touchés par le réchauffement climatique. Donc, on parle de l'Italie et de l'Espagne qui pourraient souffrir donc à hauteur donc de 56% de leur région viticole qui pourrait ne plus être apte à la culture viticole avec le réchauffement climatique.
Oui, tout à fait. Il y a des zones, effectivement, déjà en Europe, vous parlez de l'Italie et de l'Espagne, c'est tout à fait exact. Il y a d'autres vignobles un peu plus loin, effectivement, la partie centrale très continentale de la Californie, certains vignobles australiens. On voit bien que la situation se tend et ça va continuer. Donc effectivement, il est probable qu'il y ait là aussi une adaptation pressante, c'est-à-dire soit… Alors, peut-être les parcelles les plus difficiles vont être abandonnées. Il va peut-être y avoir un déplacement, une adaptation des cultures, ça c'est sûr. Une adaptation des cépages aussi. La recherche s'intéresse beaucoup à la création de nouveaux cépages pour s'adapter à des conditions de plus en plus chaudes et sèches. Donc effectivement, eux, ils vont être un petit peu sous tension. C'est-à-dire que ceux qui sont chauds ou très chauds aujourd'hui vont probablement demain tomber dans une situation carrément d'aridité. Et on sait très bien que même si la vigne est une plante assez résistante, assez costaude finalement, et qui est relativement sobre en consommation d'eau, il y a un moment, elle a quand même besoin d'eau. C'est vital pour elle. De toute façon, elle peut ni s'hydrater, évidemment, ni s'alimenter sans eau. Donc, il y a un moment, il y a un seuil critique en dessous duquel on ne pourra pas basculer. Donc, évidemment, il va y avoir pour ces vignobles-là un grand point d'interrogation qu'il va falloir dissoudre. Et il est possible que les vignobles qui sont dans les climats les plus extrêmes soient, eux, contraints à un déplacement. Ça peut arriver. Ça pourrait arriver. Ou alors un changement du type d'exploitation. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait se poser la question de savoir si ça ne devient pas un vignoble d'exploitation fruitière, c'est-à-dire de raisins de table à consommer en tant que fruits. Donc, en tout cas, il va y avoir pour ces vignobles-là une certaine tension, ça c'est sûr. C'est déjà un peu le cas maintenant.
Et alors, en France, quelles sont les régions viticoles qui pourraient vraiment profiter de la hausse des températures? Vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est plutôt les vignobles qui sont au-dessus de la Loire?
Plutôt ce qui est au nord, effectivement. Tout ce qui est au nord ou dans des régions centrale de la France où on a un peu d'altitude, un peu d'élévation. Donc en fait, il va falloir être fin sur cette appréciation-là parce que ça va être très, comment dire, très différent d'une région à une autre. Mais il est clair que les régions qui aujourd'hui sont plutôt fraîches, bon ben elles globalement sont pas en danger. Elles restent quand même d'être un petit peu bousculées dans le travail viticole, c'est-à-dire le calendrier va être un petit peu plus bousculé parce que le réchauffement climatique c'est pas seulement de la chaleur, mais on constate aussi que les phénomènes météorologiques deviennent de plus en plus violents, de plus en plus imprévisibles, si tant est qu'on pouvait les prévoir auparavant, mais là c'est vraiment encore de plus en plus flagrant. Donc tout le monde va être un petit peu bousculé, mais très clairement les vignobles les plus frais, eux vont y gagner très probablement, vont y gagner en disons moins quelques accidents qui arrivent bien sûr, mais la situation va être plutôt intéressante. Voilà, c'est surtout en fait de l'appréciation, donc il va falloir beaucoup observer les changements, s'adapter un petit peu les méthodes de culture, le calendrier de travail aussi va être probablement adapté dans les années à venir. Mais oui, moi je pense que le nord viticole, je pense a quelque chose à gagner. Oui, je pense.
D'accord. Donc on pourrait dire sans mal qu'en Alsace, a priori, ce sera quand même plus simple à gérer qu'en Provence.
Bah, dans l'ensemble, oui. Alors après, il faut se méfier parce qu'il y a quand même un microclimat assez chaud et sec en Alsace.
C'est vrai.
Faudrait pas que ça bascule du côté obscur de la force. Mais effectivement, effectivement, ils ont déjà un climat qui est quand même formidable. Hein. C'est un magnifique vignoble. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pas pour eux que je m'inquiète. Ça c'est sûr.
Oui. Et est-ce que dans tout ça, on peut dégager des nouvelles clés de lecture face à la dégustation en termes de tanins, de longueur en bouche, de couleur de la robe? Ça va bousculer quelque part les règles pour le moment qui sont à peu près celles sur lesquelles on se met d'accord, j'imagine.
Ah oui, je pense que oui, parce qu'effectivement, quand on déguste, finalement, c'est toujours le reflet d'une question qu'on se pose face au vin, de la façon dont on analyse, on interroge le vin, guide un peu la façon dont on va déguster. Il est certain que si le style des vins évolue, et en plus on a des évolutions qui ont d'autres visages aussi en même temps, il est clair qu'il faut changer un petit peu la façon dont on évalue, c'est-à-dire que si on garde la grille d'aujourd'hui, on va constater par exemple que les vins sont plus fruités et en proportion moins tanniques. Donc effectivement, la grille d'hier peut plus fonctionner parce que sinon on va dire tous les vins sont en déficit de tanin. Non, ils sont pas en déficit de tanin. Simplement, l'équilibre a été modifié. Donc effectivement, je pense que la grille de lecture, elle est à faire évoluer. Et puis aussi pour tenir compte de tous ces styles de vins qui vont arriver. Avec des cépages qui auront peut-être des personnalités différentes, des gammes aromatiques différentes. Donc là, oui, je pense que là aussi, il y a une page blanche, il faut attraper une feuille blanche et puis se pencher 10 minutes dessus. Quand je dis 10 minutes, bien sûr, c'est une image, mais oui, je pense que là, il y a quelque chose qui va devoir se construire. Moi, je donne beaucoup de cours de dégustation, alors à des professionnels ou futurs professionnels, mais aussi parfois à des amateurs. Effectivement, la question va devoir se reposer, ça c'est sûr. Parce que sinon, c'est un peu comme si vous sortiez avec une paire de lunettes de soleil partant de brouillard. Il faudra pas s'étonner que vous y voyez pas clair.
Oui. Et j'imagine aussi qu'il y a certains vins blancs qui étaient autrefois assez vifs et qui aujourd'hui sont plus gras, par exemple. Donc ça.
C'est... Complètement. Alors, je connais bien le vignoble de Chablis. Moi, j'ai vécu et travaillé pendant 4 ans dans ce vignoble-là que j'adore et qui est magnifique. Très clairement, le Chablis, excusez-moi, mais décapant acide qu'on pouvait utiliser pour laver les vitres, mais c'est fini ce monde-là. C'est fini ce monde-là. C'est-à-dire qu'effectivement, le fruité est de plus en plus éclatant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il garde une certaine finesse. Donc, c'est véritablement un changement qui est majeur. Et c'est vrai dans plein d'autres vignobles similaires. Hein. On voit très clairement que le profil devient de plus en plus... ça devient de plus en plus brillant, éclatant, intense. Tout en gardant la fraîcheur, le côté très droit, très élancé en bouche. Je pense que c'est un très bon exemple.
Donc, on va devoir aussi modifier les manuels de dégustation de vin.
Oui, il va falloir que je me mette au travail.
Vous avez parlé tout à l'heure de défis autour de nouveaux cépages. J'imagine qu'on peut aussi parler de la réhabilitation de cépages oubliés. Est-ce qu'il y a des cépages sur lesquels parier? Est-ce qu'il y en a qui vous intéressent particulièrement?
Alors, il y en a que je regarde, effectivement, il y en a que je regarde pas mal dans la Loire aussi, notamment dans les cépages rouges de la Loire. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a effectivement des cépages autochtones qui peuvent reprendre, et puis il y a aussi des grands classiques qu'on va peut-être redécouvrir. Je pense au Pinot Noir, notamment dans la vallée de la Loire, parce qu'il y a des vignobles en fait qui étaient un petit peu laissés à l'abandon dans la région de Blois ou entre Blois et Orléans. Il y avait des vignobles qui étaient un petit peu oubliés, sur lesquels on plante du Pinot Noir ou on réhabilite en quelque sorte du Pinot Noir. Il y a le Gamay aussi, qui paraît une variété intéressante. Donc en fait, il y a à la fois des cépages autochtones finalement qui, à mon avis, vont jouer un rôle de plus en plus intéressant. Et puis, je pense qu'il y a des grands classiques qu'on va réinterpréter. Donc, il y a les deux aspects. Il y a les deux aspects, et je pense que ça sont vraiment deux grandes tendances à suivre. Je vois aussi dans Lyon, par exemple, le César, qui est un très vieux cépage qu'on a cultivé pendant des siècles dans Lyon, et qui devient effectivement de plus en plus intéressant aussi. Donc voilà, je pense, effectivement, je les garde un peu à l'œil, parce que ça, je pense que dans les 10 prochaines années, ça va faire une vraie différence, et là, je pense qu'il y a vraiment des styles de vins qui vont émerger.
Finalement, ce que Sandrine Audegon explique avec beaucoup de philosophie, c'est qu'au cours de l'histoire, le vin n'a jamais été le même. Ce jus de raisin paysan, comme on gagnerait à l'appeler plus souvent, est à l'image de la nature, un paysage en constante mutation au fil des saisons, des modifications des sols et des techniques de travail qu'on apporte dans les vignobles. Alors oui, le réchauffement climatique est un bouleversement plus grand que les autres. Mais face à lui, certains territoires seront naturellement aidés quand d'autres devront s'adapter, voire disparaître. Mais le vin, lui, demeurera toujours, là où les vignes peuvent encore se frayer un chemin, par-delà les caprices des activités humaines. Et comme Taran Limousin l'a rappelé après notre enregistrement, de nombreux cépages ont été oubliés et l'heure est peut-être venue de les réhabiliter. Au total, la France a un jour connu 500 cépages, mais aujourd'hui, seule une dizaine représente 75% du territoire national. C'est dans les années 50 que l'on a abandonné plusieurs de ces cépages, notamment parce qu'ils avaient du mal à mûrir ou ne donnaient pas assez d'alcool. Mais avec la hausse des températures, ils auraient peut-être de quoi revenir sur le devant de la scène. Alors qui sait, peut-être que nous vieillirons avec de nouveaux cépages dans nos bouteilles. Verdanelle, Sarénaise, Douce Noire, Persan, Bia Blanc, Romorantin, Prunelard ou encore Mecle feront peut-être partie de notre futur. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Laura Cuissard et les coups de main de Clara Maté. Montage par Ashley Tola, mixage par Thomas Decourt, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.